Vous écoutez un podcast Top Music.
Premier sur la région.
Je m'appelle Ernst Stojaspal. Je suis né le 14 janvier 1925 à Vienne, en Autriche. Avec mon physique, j'aurais sûrement pu être une vedette de cinéma, comme l'ont été Lee Van Cleef ou Paul Newman, nés les 9 et 26 janvier de la même année. Entre celui qui a été La Brute de Sergio Leone et celui qui a été Billy the Kid à l'écran, je me devais de dégainer plus vite que mon ombre. Je serais attaquant pour flinguer à tout va. Mais ça, ce sera quand je serai grand. En mars 1929, j'ai 4 ans et un petit frère, Eric, vient d'arriver. L'Autriche, c'est le plus beau pays du monde, le pays rêvé pour grandir. Le pays de Mozart, des Alpes, mais un pays qui a perdu de sa superbe après la Première Guerre mondiale. Finalement, je me rends compte des difficultés de mon pays, de la montée de la violence, du chômage. Je ne suis encore qu'un enfant qui aime le foot. J'ai 10 ans quand je signe ma première licence dans le petit club de Strindberg. Je grimpe vite les échelons, le Mautner Markov, Simmering, puis le Ostbahn Ulf. Quelques jours avant mon 14e anniversaire, le 9 janvier 1939, mon idole, Matthias Sindelar, se suicide. Avec l'Anschluss, l'Autriche et l'Allemagne jouent sous la même bannière à la croix gammée et le plus grand joueur du monde est juif. Il avait été écarté de l'équipe en vue de la Coupe du Monde 1938, celle qui aurait dû mettre l'Autriche sur le toit du monde. Cette Wunder Team, j'espère un jour la revoir et pourquoi pas en faire partie. En 1942, c'est la guerre, mais je découvre la Gauliga à 17 ans seulement et je marque déjà 5 buts en 12 matchs. J'attire vite l'attention du Grand Austria de Vienne, l'un des plus grands clubs du monde. J'en suis un titulaire indiscutable dès l'âge de 20 ans. Je fais 1m70, j'ai un physique assez banal, je ne cours pas vite, je ne frappe pas fort, mais j'ai une technique au-dessus du lot et je fais partie des premiers joueurs à savoir brosser mes ballons, à y mettre une trajectoire diabolique pour les gardiens. 34 buts en 22 matchs. Une première saison qui m'ouvre directement les portes de la sélection, une sélection redevenue autrichienne et rapidement un premier but. J'enchaîne 9 saisons à ce rythme infernal avec l'Austria de Vienne, finissant 5 fois meilleur buteur du championnat, avec 3 titres de champion à la clé et 2 coupes d'Autriche. En 183 matchs, j'inscris 218 buts. Je suis devenu un pilier de la sélection. Et en 1954, je participe à l'une des Coupes du Monde les plus incroyables de l'histoire. Nous avons remonté la Wunder Team. Notre jeu est le plus beau du monde. Une seule équipe peut nous concurrencer, c'est la Hongrie de Puskás et Coxis. Nous arrivons sans problème en demi-finale où nous tombons sur l'Allemagne de l'Ouest. Pas de grande star, mais l'enjeu nous plombe. Une défaite 6-1 que personne n'a vu venir. On se console avec la troisième place et une victoire 3-1 contre l'Uruguay où j'inscris un but sur pénalty. La finale, ce sera le fameux miracle de Berne. C'est aussi cet été-là que je fais le choix de quitter l'Autriche pour découvrir la France. Je signe à Strasbourg et j'arrive comme une star de cinéma. J'ai 30 ans, de l'expérience, du talent, des buts à amener. Le Racing, c'est une équipe qui monte en puissance, qui travaille bien sous la présidence de Willy Scheurer. On me dit le plus grand bien des cadres, René Haus et Edmond Hahn, mais aussi de jeunes très prometteurs comme Jean Wendling, Raymond Kolbel ou Lucien Muller. Pendant 3 ans, je vais leur donner des conseils et j'ose croire que c'est un peu grâce à moi si le grand Lucien, il faisait 1m75, a ensuite connu le Real Madrid, le FC Barcelone ou le Stade de Reims. Cette saison 1954-55 commence de la meilleure des façons. Pour mon premier match, je marque un triplé sur la pelouse du FC Nancy et nous l'emportons 5-1. Avec le Hollandais Bert Carlier, nous allons martyriser toutes les défenses du championnat. Jamais le Racing ne restera muet 2 matchs de suite. Je finis ma saison avec 23 buts, Bert en marque 11. Et tous les deux nous donnons par ailleurs 11 passes décisives chacun, sans compter Georges Cessia, le grand artisan de la remontée en D1 2 ans plus tôt, qui termine encore lui avec 11 buts. Cette saison-là, nous réalisons des coups mémorables. 7-1 contre Nice, 5-0 contre Saint-Étienne, 4-1 contre Marseille, 5-0 contre Monaco. Malheureusement, nous ratons nos 5 derniers matchs. Nous menons à Nîmes, au Racing Paris, mais finissons par perdre. Nous menons contre Lens et Metz à la Méno, mais finissons sur des matchs nuls. Nous terminons 4e avec la 3e meilleure attaque alors que nous étions encore à la lutte pour le titre. En Coupe de France, on s'arrête en demi-finale contre Lille et c'est le dernier match en bleu de Georges Cessia. Pour ma part, je fais de l'ombre à Raymond Kopa dans ce championnat que je découvre et qui me plaît. La saison 55-56 s'ouvre et je suis prêt.
Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos.
Pepi Umpal laisse son poste d'entraîneur-joueur à une ancienne légende du club. Albert Freiermuth prend les commandes de l'équipe. Lui et moi, on parle le même langage, un ballon, ça doit rester au sol. Mon compère Bert Carlier est parti et pas vraiment remplacé. Le groupe est un peu déséquilibré, on prend beaucoup trop de buts et on en marque moins. Coup du sort, avec la guerre d'Algérie, Lucien Muller et Jean Vendling n'échappent pas au service militaire. Je fais de mon mieux avec mes 18 buts et mes 6 passes décisives, mais je suis un peu orphelin de Berthe et Georges. Une saison où l'on aura beaucoup de mal à enchaîner les résultats, jamais plus de 2 victoires d'affilée. Trop irrégulier, nous achevons cette saison à une triste 14e place, bien loin de mes ambitions personnelles. Mais d'aucuns diront que si le Racing est encore en D1, c'est grâce à moi. Je reste humble, comme toujours, plus prêt à écouter les autres qu'à étaler ma science, mais les supporters me le font sentir, je suis entré dans leur cœur. Sur le banc, le sudiste Jean Avellaneda remplace Albert Freiermuth à l'été 56. L'effectif se renforce avec les arrivées de 2 milieux de terrain référencés, le parisien Stéphane Brezhniak et le marseillais Michel Luzy. Mais devant, en attaque, rien de nouveau, surtout qu'on me demande de jouer meneur maintenant. Alors je continue de régaler dès le début de la saison, sur les 7 premiers matchs, 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites, on est confiant. Et puis c'est l'effondrement, on n'y arrive pas. Je donne tout ce que j'ai, je me bats, je mets des buts toujours plus étonnants les uns que les autres, mais ça ne suffit pas. Le 9 décembre 56, pour notre 10e match sans victoire, on encaisse un humiliant 6-0 chez le rival sochalien. Là, je sais, tout le monde le sait, que cette saison peut mal finir. On accroche encore quelques beaux succès contre Monaco, Sochaux ou Lyon, où je suis à chaque fois buteur. J'y crois jusqu'au bout, marquant encore contre Saint-Étienne. Mais c'est terminé. 34 journées, le Racing est 19e et retrouve la D2. L'ombre, la lumière, et à nouveau, l'ombre. Je ne suis pas du genre à quitter le navire, et puis je me plais à Strasbourg. Cette si belle ville qui correspond à mon tempérament romantique et qui me rappelle un peu, par certains égards, ma belle ville de Vienne. On attaque fort en D2, 5 victoires et 2 nuls après les 7 premières journées. Évidemment, je marque toujours, même à 32 ans. Mais l'appel de la D1 va être le plus fort. Béziers me fait un appel du pied. J'hésite, mais fin octobre, je fais mes balises. Mon dernier but, le 6e en 10 matchs, je l'inscris le 22 septembre 1957 sur la pelouse du RC Paris pour une défaite 3-1. Il est 15h34. Mon dernier match, le 13 octobre, sera aussi une défaite 2-0 à Limoges. Et voilà comment je quitte, presque dans l'indifférence, ce club qui remontera tout de suite en D1. Pour ma part, j'avance en âge, mais mes qualités techniques restent au sommet. Je joue encore jusqu'à 37 ans, ce qui est quand même très rare, encore plus à l'époque. Béziers, Monaco, 3 et une dernière saison à Metz où je vais rencontrer celle qui deviendra ma femme. Lors de ma dernière saison, je prends encore un malin plaisir à battre le Reims de mes anciens amis, Lucien Muller et Jean Vendling. Victoire 2-1 et je marque, bien sûr. Ce sera le dernier but de ma carrière. Mes 2 dernières passes décisives, ce sera pour un match contre le Racing à une victoire 2-0. Mon tout dernier match sera une défaite 4-2 à domicile contre un autre Racing, celui de Paris. C'est le 21 avril 1962. Il reste 3 journées que je ne jouerai pas et Metz descendra en D2. Il est temps pour moi de tirer ma révérence. Quand je regarde ma carrière, je fais le compte, je me dis que c'est pas trop mal. 438 matchs de haut niveau, 335 buts, dont 15 en sélection. L'Autriche qui a pu retrouver son rang grâce à ma génération. La suite, c'est en Moselle que ça s'est passé. J'entraîne le club de l'AS Giraumont en DH et puis ça me plaît bien. Alors je vais un peu poursuivre l'aventure à Monté en Suisse, puis à Athus en Belgique. En 1970, je raccroche crampons et sifflets et je reviens en Moselle près de ma nouvelle famille. Je meurs le 2 avril 2002 à Moulins-les-Metz, une crise cardiaque alors que je me promenais près d'une gravière, une balade comme j'en faisais régulièrement pour prendre l'air et un peu le soleil. J'avais 77 ans, j'étais tombé dans l'oubli, de l'ombre à la lumière et de retour dans l'ombre. Finalement, ça me va comme ça.